matin.
5h, 7h, Eva Rock.
Bonjour à tous, bienvenue en direct sur Europe 1. Il est 4h58, nous sommes le mercredi 27 février et ce matin, je suis d'humeur... Pardon, je vous demande pardon. Je cherchais un moyen pour que vous pensiez à moi toute la journée alors qu'il n'est pas encore 5h du matin. J'ai trouvé que cette solution. Alors sauf que derrière cette musique entêtante, voire prise de tête, il y a aussi une info. Nous venons d'apprendre que le clip a dépassé les 6 milliards de vues sur YouTube.
Ah oui.
Et oui, c'est le clip d'une chanson dont il est difficile de louer la créativité, qui est la vidéo la plus regardée au monde. Pas un discours d'un prix Nobel de la paix ou un reportage sur l'état de la planète. Non, non, un clip, et oui. Ainsi va la Terre. Et vous, mes complices, comment allez-vous? Bonjour Anissa Haddadi, Aurélien Fleurot.
Bonjour à tous.
En grande forme, on vient de regarder Despacito en boucle, mais
et
sans le son.
Sur 6 milliards de vues, il y a 3 milliards juste par Eva Rock.
Voilà, oui, c'est ça, à peu près ça. Et Anissa, avec votre voix ensoleillée, quelles questions avez-vous posées à nos auditeurs ce matin sur Twitter?
Alors ce matin, j'ai trouvé dans la presse les petits noms qu'on se donne quand on est en couple. Vous savez, le petit nom que vous donnez à votre moitié.
Je ne sais pas, mais allez-y.
Alors, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Alors, le plus prisé, c'est mon cœur.
Oui.
Alors, je vous ai demandé sur Twitter quel est le petit nom que vous donnez à votre moitié. Allez-y, hein.
Oui.
On peut y aller même sur...
Même les trucs gnangnan, cuculapraline.
Gnangnan, ringard, okay. Cuculapraloche. Allez-y, à fond.
Cuculapraloche, on y va.
Hashtag Europe 1.
Aurélien, vous serez obligé de répondre à la question. Et notre Mister Météo, Laurent Cabrol, comment il va? Soleil?
Il va pas mal. Il a son vinyle 45 tours et il a mis une chanson qu'il aimait bien dans le temps. Le jour où la pluie viendra.
Ah, c'est ça.
Le jour où la
pluie
viendra.
C'est bientôt, ça, non?
Mais c'est demain.
Ah, c'est demain. Mais c'est une bonne nouvelle en même temps. C'est ce que vous allez nous dire, je pense.
Hein? Bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Surtout pour moi, c'est-à-dire les agriculteurs.
Exactement. Merci beaucoup, Laurent. On se retrouve tout à l'heure. L'équipe est prête? L'essentiel de l'info, des sourires, des invités et vos commentaires. C'est le cocktail des petits matins. Debout les copains, c'est parti.
Nous sommes le 27 février. Merci d'avoir choisi Europe 1. Très bon réveil à notre écoute, il est 5h. 5h-7h, Eva Rock sur Europe 1.
Le premier journal de ce mercredi 27 février, c'est avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Eva et bonjour à tous.
Les titres.
Épisode de pollution aux particules fines aujourd'hui et des restrictions de circulation pour les véhicules les plus polluants en vigueur à Paris et sa proche banlieue ainsi qu'à Lille et ses environs, et ce pour la première fois. Montée surprise du gouvernement néerlandais au capital d'Air France KLM, achat de 680 millions d'euros d'actions, 12,5% de la compagnie, presque autant que le gouvernement français qui n'avait pas été prévenu. Les Pays-Bas entendent peser dans les futures décisions. Et puis les footballeurs du PSG enchaînent un 28e succès consécutif en Coupe de France. Les quadruples tenants du trophée se sont qualifiés hier soir pour les demi-finales. Victoire 3-0 contre Dijon.
Europe 1.
Alerte pollution aujourd'hui, journée la plus chaude du très doux épisode météo que nous traversons. Cela favorise le développement dans l'air des particules fines et voilà qui pousse les autorités à interdire aujourd'hui la circulation des véhicules les plus polluants à Paris ainsi qu'à Lille et en leur proche banlieue. Seuls les véhicules équipés d'une vignette critère verte 1, 2 ou 3 pourront circuler sans condition. C'est la circulation différenciée, principe acté en 2017 et appliquée pour la première fois dans la métropole lilloise. Michel Lalande est le préfet du Nord.
C'est la première fois que les automobilistes vont devoir se servir de la vignette critère et pourront circuler les véhicules avec la vignette 0, 1, 2 et 3. Et pourront circuler également tous les véhicules qui pratiquent le covoiturage sans distinction de vignette. C'est le niveau de pollution qui m'oblige dans ce contexte à devoir mettre en place la circulation différenciée. L'autre volet, c'est le volet limitation de vitesse sur l'ensemble du réseau routier, avec des contrôles radars qui seront nombreux et sévères, je veux le dire ici, nombreux et sévères, pour amener les uns et les autres à s'engager dans une démarche citoyenne, à savoir limiter son empreinte dans la pollution du Nord et du Pas-de-Calais.
Des propos recueillis par Lionel Gougelot. L'État français n'était pas du tout au courant de la montée de l'État néerlandais au capital d'Air France, KLM, irruption surprise. Le gouvernement des Pays-Bas annonce avoir acheté pour 680 millions d'euros d'actions de la compagnie aérienne, participation directe de plus de 12,5%, et le but est de se rapprocher de la France qui détient un peu plus de 14% et de peser ainsi dans les futures décisions.
Europe 1, il est 5h20.
Alexandre Benalla et Vincent Crase sont sortis hier soir de prison, décision de la Cour d'appel de Paris. L'ancien collaborateur de l'Élysée s'est dit heureux et soulagé. Ils sont restés incarcérés une semaine pour non-respect de leur contrôle judiciaire. Ils s'étaient rencontrés fin juillet alors qu'ils étaient interdits de tout contact dans le cadre de l'enquête sur les violences du 1er mai dernier.
Emmanuel Macron veut faire cesser les samedis de violence.
En marge des manifestations des Gilets jaunes, ce serait le 16e dans 3 jours. Hier, devant des élus de la région du Grand Est, le chef de l'État a élevé le ton. Lorsqu'on va dans des manifestations violentes, on est complice du pire. Fin de citation. Et justement, il s'agit peut-être ici d'un message envoyé aux Gilets jaunes par le gouvernement qui entend revoir rapidement les règles d'indemnisation du chômage. L'exécutif récupère ce lourd dossier après l'échec des discussions entre partenaires sociaux, réforme présentée au printemps et de premières pistes dévoilées hier. Diminution de l'indemnisation pour les salaires les plus élevés, mise en place d'un bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts. Des pistes qui vont dans le sens des Gilets jaunes. Emmanuel Dutheil.
Les Gilets jaunes demandent plus d'équité. Bien là, le gouvernement tape dans la poche des salariés les plus aisés à moindre coût. C'est très bien joué, c'est très symbolique. Voilà le jugement d'un entrepreneur proche d'Emmanuel Macron qui avait poussé pour un tel dispositif. C'est pareil pour le bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts. Il faut y aller, ajoute ce proche. Il ne faut pas l'oublier, hein, cette taxation, c'était une promesse du candidat Macron. Ça peut être aussi un marqueur très important, complète un ministre de premier plan. Je ne sais pas si c'est une réponse directe aux Gilets jaunes, mais ce qui est sûr, c'est que cette crise permet de faire passer rapidement et fermement de telles mesures, confirme un autre proche. Il faut, dans tous les cas aujourd'hui, réformer dans une logique de plus de justice sociale. Et là, ça va totalement dans ce sens, assure ce proche. En tout cas, en ce moment, dans les ministères, ça phosphore. Les réunions se multiplient pour proposer des réformes liées au grand débat. Les grandes lignes seront arbitrées dans les jours à venir directement par Emmanuel Macron.
Emmanuel Dutheil.
Jérôme Pell n'est plus secrétaire à l'économie du Vatican, Jérôme.
Annonce hier soir du Saint-Siège, George Pell, cardinal australien, ex-numéro 3 de la hiérarchie catholique, vient d'être reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineur, devenant ainsi le plus haut responsable de l'Église jamais condamné dans une affaire de pédophilie. Le procureur requiert ce matin son placement en détention. George Pell, 77 ans, se dit innocent. Il encourt 50 ans de prison. Sa peine devrait être prononcée dans les 2 semaines. En Algérie, les étudiants se sont mobilisés en masse hier dans tout le pays, en dépit de l'interdiction de manifester. Les rassemblements se poursuivent contre la perspective d'un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, 82 ans samedi et très affaibli. Et puis, si Kim Jong-un abandonne son arsenal nucléaire, Donald Trump prédit à Pyongyang un avenir, je cite, « génial, awesome » en version originale écrit en capitale cette nuit dans un tweet du président américain qui a rejoint cette nuit le dirigeant nord-coréen à Hanoï, la capitale vietnamienne. Ils s'y rencontrent aujourd'hui et demain. Ce pour la 2e fois, il sera notamment question de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Le lieu de la rencontre est tenu secret.
Merci beaucoup Jérôme. Jérôme, vous n'avez pas oublié de me dire quelque chose aujourd'hui? Non. Allez, petite bon question. Petite question. Nous sommes quel jour?
Aujourd'hui c'est vendredi.
Oui, c'est vrai.
Vous savez pourquoi? Dites-le. Bah, oui. Qu'est-ce qui se passe
c'est
à 8h?
Disons-le.
Ah, bah, oui. C'est bien. Bah, oui. D'accord, on est sur des semaines de 3 jours donc. Hein. Voilà.
Très bien.
Bah, vous partez quelques jours en vacances. On est d'accord.
Demain.
Bon, en attendant, on a encore besoin de vous et notamment de votre journal des sports. Et à la une 100e rugissante.
Oui, c'est l'histoire dans l'histoire du PSG Dijon en Coupe de France de foot hier soir. Leur victoire parisienne 3-0 au Parc des Princes, Paris qualifié pour les demi-finales. Et le défenseur champion du monde français, Presnel Kimpembe, fêtait à 23 ans son 100e match avec le club, avec son club, lui, le francilien.
C'est beau, c'est magnifique, surtout que je suis un enfant de la maison, on va dire. Et voilà, faire ce soir mon 100e match sous le maillot parisien, c'est encore plus beau avec une grande fierté et beaucoup de joie, et surtout avec la qualification au bout, donc c'est magnifique.
Des propos recueillis par Julien Froment. Hier soir, l'Argentin Di Maria était très bon, deux fois buteur, plus un but du Belge Thomas Meunier. De retour après un arrêt pour une commotion cérébrale, les Parisiens, sur une série de 28 rencontres victorieuses d'affilée en Coupe de France, ils sont quadruples tenants du titre. Ce soir, 2 autres quarts de finale, 18h30, Rennes reçoit Orléans. Orléans, une équipe qui joue en Ligue 2, et puis à 21h, Lyon-Caen, les Lyonnais, toujours privés de leur capitaine champion du monde, Nabil Fekir.
Et encore un entraîneur de Ligue 1 remercié.
Le Brésilien Ricardo est le 8 cette saison à être débarqué en première division. Le désormais ex-manager général, arrivé il y a 6 mois à peine, ne résiste pas à l'actuelle mauvaise série de résultats de Bordeaux, 13e de Ligue 1. Éric Bédoué, qui gérait les entraînements, devrait lui aussi partir.
Et on finit avec le chiffre du jour, Jérôme.
1. Lundi prochain, publication hebdomadaire du classement du tennis mondial, Gaël Monfils, 32 ans, sera, c'est une certitude, numéro 1 français. Il est actuellement 2e derrière Lucas Pouille et le Parisien va dépasser le nordiste grâce à un super début d'année pour Monfils, récent vainqueur du tournoi de Rotterdam. Il s'est qualifié hier pour le 2e tour du tournoi de Dubaï au prix d'un super coup. L'élimination du Croate Raonic, 10e mondial en 3 manches, 6-3, 4-6 et 6-0 dans le dernier set.
Il va vraiment, il a une bonne forme.
Oui, comme vous dites.
Gaël, mon fils.
Ben oui,
voilà.
Lui-même.
Merci beaucoup. C'était le Journal d'Espoir, signé Jérôme Lacroix. Jérôme, nous vous retrouvons dans quelques minutes pour découvrir quel article a retenu votre attention ce matin, car ce sera l'heure du pressing.
Il est 5h08, Eva Rock.
Debout les copains se poursuit avec le point météo de Laurent Cabrol, suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Nous avons lu pour vous les quotidiens du jour pour en retenir la substantifique moelle, car partager, c'est le mot d'ordre de Debout les copains et de toutes ces personnes qui chaque matin nous racontent leur changement de vie. Ils ont osé le faire, comme Sophie, architecte, elle a choisi de s'intéresser à la thérapie par les équidés.
Un enfant qui naît aujourd'hui a de grandes chances de vivre plus de 100 ans. Alors oui, il va vivre vieux, mais est-ce qu'il va vivre mieux ?
C'est pourquoi nous avons créé Aesio, avec la conviction qu'une mutuelle doit aussi vous aider à vivre mieux et que la meilleure façon d'y arriver, c'est de le faire ensemble. Groupe Aesio, décidons ensemble de vivre mieux.
Groupe Aesio, 25 Place de la Madeleine, Paris 8e. Orias numéro 160 069 68, aesio.fr.
Europe 1, il est 5h09, Eva Rock.
Debout les copains se poursuit sur Europe 1 avec mes acolytes de la semaine, Anissa Haddadi et Aurélien Fleurot.
Oui.
Et
oui.
Laurent Cabrol, évidemment. Laurent, quelle est la tendance du jour?
La tendance est belle, hein. C'est une très belle journée, on l'a dit et redit, tout se confirme. Alors les températures ce matin, pour ceux qui n'ont pas mis le nez dehors, 1-1 pardon, à Mulhouse, 0 à Nancy, 2 à Lyon, 3 à Rennes, 4 en banlieue parisienne, 5 à Toulouse, 6 à Lille, 7 à Nantes, 8 à Bordeaux en ce moment, 8 à Paris, 9 à Biarritz, 11 à Montélimar et 12 à Millau. Et qui prend ses vacances la semaine prochaine?
Laurent Cabrol.
Non.
Moi.
Aurélien Fleurot.
Ben oui.
Ah, c'est la loose.
Vengeance absolue de Laurent Cabrol.
Tous ceux qui nous écoutent, voilà. Franchement, on n'avait pas de chance parce que c'était
pas
la semaine, c'était celle-là.
Oh là là.
Bon, il y avait une chance sur deux. Voilà. Désolé, Aurélien Fleurot. Merci Laurent, vous serez de retour avant 5h30 pour une météo complète. Anissa, est-ce que les auditeurs réagissent sur Twitter? Vous nous rappelez la question du jour?
La question, elle est simple. On rentre un petit peu dans votre intimité aujourd'hui parce qu'on a découvert que le surnom préféré dans les couples, c'était Mon Cœur. 45% des couples s'appellent Mon Cœur.
C'est parce que j'ai oublié les prénoms.
Voilà. Alors Anaïs, ça l'avait énervé dans une chanson, souvenez-vous.
Mon cœur. Mon amour. Mon amour. Mon cœur.
Alors dites-nous, vous, comment vous appelez votre moitié? On a Caro qui dit « Je l'appelais mon petit chat ». Bon, elle faisait 1m80 et elle m'appelait Roudoudou. Sinon, pour les autres, c'est bêtement Caro. Mais voilà.
Mais c'est pas bêtement, c'est bien aussi d'appeler les gens par leur prénom. On a été doté d'un prénom, c'est pour qu'on
Caro,
nous appelle par
les prénoms.
Caro,
c'est pour les amis, mais c'est vrai que mon petit chat est Roudoudou, ça c'est après, c'est pour le chéri.
Et vous, comment
chéri,
vous l'appelez votre moitié?
Quand je l'appelle par son prénom, c'est que ça va mal.
D'accord. Vous répondez pas à la question.
Europe 1, 5h, 7h. Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7, pour vous informer, sourire et découvrir des parcours étonnants, parce qu'il faut oser changer de vie comme l'a fait Sophie Marty, 62 ans. Elle a été architecte pendant 28 ans, jusqu'au jour où elle a décidé de changer complètement d'orientation professionnelle pour travailler avec les chevaux.
Fallait oser.
J'ai vraiment une information qui est descendue, une intuition qui est vraiment arrivée, c'était vraiment va vers les chevaux, ce qui n'était pas du tout mon domaine. J'ai eu un espèce de sourire intérieur, je me dis mais pourquoi pas. J'ai commencé classiquement par aller m'inscrire au club qui se trouvait à 5 minutes de chez moi. Et c'était passionnant parce que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de chevaux, d'apprendre, de m'apercevoir que je n'aimais qu'une chose, c'est apprendre à les connaître. Et c'était aussi une façon d'apprendre à vivre une passion en dehors de la famille, ce que je n'avais jamais fait. C'était vraiment apprendre à trouver un espace de liberté.
Alors après avoir appris à monter à cheval, Sophie découvre la méthode EponaQuest. C'est une forme de thérapie par les équidés. Le but est de communiquer avec la nature et les chevaux pour mieux se connaître.
Et il y a 5 ans, elle décide d'ouvrir des ateliers et de se lancer en tant qu'instructrice elle-même. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir améliorer le bien-être des humains et des animaux.
Là, la joie est toujours présente. Même quand il y a des soucis, des recherches, des choses qui ne sont pas évidentes, à l'intérieur, je suis toujours heureuse de ce que je fais. Alors que dans l'architecture, j'adorais ce que je faisais. Je voulais énormément faire des projets. Mais il y avait des blocages. Là, on est vraiment toujours dans le vrai, dans le réel. Tout est fait pour avancer, en fait. Je suis à ma juste place. C'est toujours tellement évident que c'est mon cœur qui me porte, en fait.
Et Sophie propose des cours pour petits et pour les grands également. Ça se passe à Mugedan, en Seine-Maritime. Et vous pouvez vous renseigner en allant sur le site www.lamagiedeschevaux.com.
Si vous souhaitez vous aussi nous faire partager votre expérience parce que vous avez changé de métier, vous avez changé de vie, vous nous écrivez en nous envoyant un petit mail ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 5h12, Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures au cours desquelles toute l'équipe et la rédaction d'Europe 1 se mobilisent pour vous apporter l'essentiel de l'actualité dans la bonne humeur, avec quelques notes de musique aussi pour se réveiller en douceur. Lundi, elle enchantait déjà notre petit matin de sa voix résonnant sur l'immense scène des Oscars. Lady Gaga remportait alors une statuette, celle de la meilleure chanson, Shallow, dans le film Star is Born. Et bien, voici un autre extrait sur Europe 1, Always Remember Us This Way. Burning in your eyes, you look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride, we don't know how to rhyme, but damn we try. But all I really know, you're welcome. On ne s'en lasse pas à la voix puissante de Lady Gaga sur Europe 1.
Il est 5h16. Et voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Eva Rock.
Épisode de pollution. Aujourd'hui, des restrictions de circulation pour les véhicules les plus polluants sont en vigueur à Paris, à Lille et dans leurs proches banlieues. Seuls les véhicules équipés des vignettes critères vertes 1, 2 et 3 peuvent circuler. Georges Pell n'est plus secrétaire à l'économie du Vatican, annonce hier soir du Saint-Siège. Le cardinal australien ex numéro 3 de la hiérarchie catholique vient d'être reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineurs. Le procureur requiert ce matin son placement en détention. Georges Pell, 77 ans, se dit innocent. Il encourt 50 ans de prison. Sa peine devrait être prononcée dans les deux semaines. Et puis en Algérie, les étudiants se sont mobilisés hier dans tout le pays en dépit de l'interdiction de manifester. Les rassemblements se poursuivent contre la perspective d'un cinquième mandat du président Bouteflika, 82 ans samedi et très affaibli.
Europe 1.
Voilà pour les principaux titres de ce mercredi. Anissa et Aurélien, c'est l'heure. C'est l'heure parce que le cheval, c'est génial, comme dit Mathieu Noël. Alors on écoute avec la plus grande attention les pronostics de Thierry Léger.
Bonjour Eva, il y aura des courses cet après-midi à Vincennes et mon pari gagnant sera le 116 Nancy America. Après une honorable carrière en Suède, en Norvège et au Danemark, cette Scandinave expérimentée, qui n'avait plus rien à prouver chez elle, s'est expatriée en France, où il lui aura fallu plusieurs mois pour s'adapter à son nouvel environnement. Désormais stationnée dans l'Orne, au Haradjinet, où elle bénéficie de conditions idéales pour s'entraîner, je sais qu'elle n'a jamais été aussi performante qu'en ce moment. Idéalement placée de par les conditions de course, elle ne devrait donc pas laisser échapper ce bel engagement. Alors notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1, dans la première course, le numéro 16, Nancy America.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h18.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.
Vous êtes bien sur Europe 1 et vous écoutez Debout les copains. Alors sans trop vous dévoiler les coulisses de l'émission, vous en savez déjà beaucoup. Hein. Notre journée, je vous explique, débute au cœur de la nuit dans notre bureau aux lumières tamisées. Nous nous retrouvons, la machine à café est déjà branchée, les journaux papiers ont disparu malheureusement. Devant nos écrans, nous feuilletons la presse et commentons. Évidemment, l'équipe de la matinale de Nikos Aliagas se mêle parfois à la conversation. Conversation ponctuée d'éclats de rire, vous le savez, c'est une constante dans cette équipe de foufous. Et puis, il y a ce mystère de la pendule. Pourquoi le temps passe plus vite à ce moment-là de la journée. Pourquoi les minutes n'ont pas la même durée? Pourquoi faut-il que nous exclamions tous les matins « Et merde, je suis en retard. Quoi? Faut déjà y aller, mais j'ai pas fini, etc. etc. » Donc, vérification des copies avec notre pressing, la revue de presse en mode zapping.
La pression.
Voilà. Ce matin, à la une de vos quotidiens, un même sujet pour les Échos et Libération, mais alors deux traitements, jugés plus tôt. Le quotidien économique titre Ascoval, diesel, futur de l'industrie, les réponses de Bruno Le Maire, pendant que Libération propose une autre vision en écrivant Ascoval, Ford, Alcatel, impuissance d'État. Pas de quoi être très optimiste. Pour une avec des sourires, je n'ai guère trouvé que l'équipe au lendemain de la victoire du PSG 3-0 contre Dijon. Et ce titre, une partie de plaisir, phrase qui sera évidemment sortie de son contexte dans quelques jours, je le sais bien.
Mais
Aurélien, est-ce que vous avez fini de regarder la presse ou le temps vous a manqué ce matin ?
Ça a été, j'ai eu le temps parce que j'ai fait un petit tour dans l'espace grâce à la page science du Figaro, donc j'ai eu le temps de revenir hein, quand même.
Oui.
Aujourd'hui à 22h37 précise, heure de Paris, ce sera le lancement des 6 premiers prototypes de la constellation OneWeb depuis le centre spatial européen de Kourou en Guyane. Alors, c'est une fusée russe Soyouz qui aura pour mission de mettre sur orbite à 1000 km d'altitude les 6 premiers engins de 150 kg chacun. Ce sera une première étape dans la construction d'un réseau, donc d'une méga constellation de satellites qui à terme permettra de connecter entièrement la planète à de l'internet à haut débit. À terme, il devrait y en avoir 600 satellites de cette taille. Ce sera
au-dessus
clairement
tête.
Du jamais vu, alors assez haut, mais effectivement, le Figaro rappelle à titre de comparaison que la plus grande constellation en service aujourd'hui est le système de téléphonie par satellite Iridium avec 66 seulement satellites actifs. Et puis celui que l'on connaît tous, hein, le système GPS, lui n'est constitué que de 31 satellites actifs et surtout ça se passe sur des orbites bien plus lointaines. Parce qu'il y a tout de même justement des craintes sur la gestion des débris spatiaux. Cette méga constellation OneWeb, elle se situe sur des orbites basses, hein, c'est ce que précise l'article. Et on parle donc de satellites de 150 kg chacun alors que beaucoup des engins qui circulent déjà autour de la Terre font plutôt la taille d'une boîte à chaussures et finissent par se désintégrer. Donc il y aura aussi une question autour de ça. Et j'ai appris aussi qu'il y avait de la concurrence dans ce secteur des méga constellations. La constellation Starlink de SpaceX, Elon Musk vient d'obtenir l'autorisation de déployer 7500 satellites en orbite très basse également. Donc il y a vraiment une concurrence et ce lancement il sera crucial pour ce secteur pour voir si ce modèle économique est viable. D'autres projets devraient devrait ensuite voir le jour, à tel point que selon une prévision d'Euroconsult, plus de 3000 satellites de plus de 50 kilos pourraient être lancés d'ici à 2027. Donc on aura, je pense, bientôt des embouteillages dans l'espace.
En espérant qu'on s'en prenne pas un sur la tête, parce que ça va vite calmer leurs ardeurs si ça arrive.
Non, mais je suis sérieuse. J'aime votre optimisme.
Non, mais les débris spatiaux, c'est un vrai sujet. C'est souvent. Il y avait encore un débat à l'ONU il y a deux semaines sur ce sujet. Donc, comme quoi. Merci beaucoup, Aurélien Fleurot. Anissa,
oui.
Vous avez lu quoi dans la presse ?
Alors, je vous avais pas encore parlé de sport depuis le début de la semaine.
Alors que c'est un peu votre dada.
Et ça me manquait, je dois bien vous l'avouer. Alors, heureusement, j'ai trouvé ce matin l'article idéal dans Aujourd'hui en France. C'est un article qui allie sport et littérature. Ah si, c'est possible, ça existe, parce que les sportifs sont de plus en plus nombreux à se lancer dans l'écriture de leur biographie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les librairies, il y a de plus en plus de livres qui nous parlent de la vie de ces sportifs. Alors le succès n'est pas toujours au rendez-vous, hein. Donc je vous propose ce matin de faire un point sur les livres qui ont marché cette année et ceux que les Français ont laissés en rayon. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est important, c'est que tous les sports sont représentés. Il n'y a pas que du foot ou du rugby dans les librairies. Il y a eu un livre sur la vie de Christophe Lemaître, Aurélien Rougerie, le rugbyman.
Alors Christophe Lemaître,
coureur de 100 mètres. Aurélien Rougerie, le rugbyman, s'est raconté. Teddy Riner, champion de judo. Sébastien Chabal, Fabien Peloux, François Gabart, navigateur, Antoine Griezmann. Ils se sont tous racontés. Vicente Lizarazu également. Alors il faut savoir que les éditeurs fixent à 5000 exemplaires le seuil d'une vente correcte. Certains sportifs ne dépassent pas les 2000 ventes. Donc parfois, ce sont des véritables fours. Et il suffit pas de faire des révélations fracassantes pour s'assurer des bonnes ventes. Souvenez-vous d'Entre les lignes. C'était le livre de Laure Manoudou, sorti en 2014, où là, il y avait des révélations sur Philippe Lucas, sur ses amours, sur sa vie privée. Et ben, elle n'en avait vendu que 15 000, finalement. Donc les révélations fracassantes, c'est pas ce qu'attendent les gens.
C'est-à-dire, oui, dans le champ de ce genre de sport.
Voilà, c'est ça.
Et c'est quand même pas mal.
Et dans les ventes de livres, c'est pas extraordinaire parce que j'ai trouvé des sportifs qui vendaient beaucoup mieux. Alors, je vais vous proposer le top 3 et c'est à vous de trouver le premier. C'est à vous de trouver la médaille d'or.
Allons-y.
Alors, pour la médaille de bronze, celui qui a vendu plus de 20 000 exemplaires cette année, c'est Pascal Papé. Il est deuxième ligne au sein de l'effectif du Stade français. C'est un ancien rugbyman. Aujourd'hui, il est vice-président de la Fédération française de rugby. Et lui, il a vendu plus de 20 000 exemplaires de double jeu. Le numéro 2, la médaille d'argent. À votre avis ?
Un footballeur, non ?
Footballeur.
Zlatan, Griezmann. Non
Zlatan. Grisou.
Antoine Griezmann,
pénalty,
on est ensemble. Et ouais,
on a la réponse dans la chanson.
Antoine Griezmann, direct. Effectivement. Il a vendu 30 000 exemplaires de Derrière le sourire. Il y avait aussi le documentaire d'Alessandra Sublet qui avait bien marché à la télé sur TMC. Donc Antoine Griezmann, il fait d'air. Mais le premier. Qui est le premier qui a vendu le plus de livres ?
Je proposais Zlatan, la biographie de Zlatan Ibrahimovic.
La biographie de Zlatan, on est toujours dans le foot.
Oui, a priori.
On reste dans le foot. Eh bien, pas du tout. Celui qui a vendu plus de 45 000 exemplaires. Je me crois aux Oscars. C'est le biathlète Martin Fourcade.
Ah, bah ça, c'est étonnant.
Effectivement, qui raconte sa vie dans Mon rêve d'or et de neige. Et en plus, c'est un livre qui a de très, très, très bonnes critiques. Donc lisez-le, pourquoi pas, là, pendant les vacances.
Et c'est un auditeur d'Europe 1, Martin Fourcade.
Et on l'embrasse.
Ah, bah on l'embrasse, mais il vient nous voir quand il veut.
Je savais que c'était quelqu'un de bien.
Merci beaucoup, Anissa. Jérôme, qu'est-ce que vous avez repéré dans la presse ?
Je fais une photo ce matin. Une photo de la famille française. Deux pages dans Libération qui s'appuie sur les chiffres hier de l'INSEE et de l'INED, donc l'Institut des études démographiques, à partir desquels on peut faire le portrait de la famille type, enfin des familles types. Parce que, vous allez entendre, on est en pleine mutation. Maman plus papa plus deux enfants,
et oui.
Ça s'étiole largement. De plus en plus, déjà, maman et papa ne sont pas mariés. Ils sont paxés. Aujourd'hui, sont conclus 4 pax pour 5 mariages. Pour le pax, c'est x12. En 15 ans, maman et papa sont aussi plus vieux quand ils se marient. Après 30 ans, c'est plus 5 ans en moyenne si on se réfère aux 20 dernières années. Et puis maintenant, sont mariés ou paxés, maman et maman ou papa et papa. 7000 pax et mariages homosexuels en 2017. Alors pour le mariage, c'est une baisse de 30% par rapport à 2014, première année de la pleine application du mariage pour tous. Donc y compris au sein des couples homosexuels, on se marie de moins en moins. Alors pour ce qui est de faire des bébés, c'est de plus en plus tard. Voilà, âge moyen du couple à l'arrivée du premier enfant, 30 ans et demi, 30,6.
Ah, on a dépassé les 30 ans.
Ça m'a étonné aussi qu'on ait dépassé les 30 ans. C'était pratiquement 30 ans, 29,8. Il y a 10 ans, un tiers des femmes devient aujourd'hui maman après 30 ans. D'ailleurs, on le rappelle, même si la France reste le pays le plus fécond de l'UE, 1,87 enfants par femme, moins de bébés sont nés l'année dernière dans notre pays pour la quatrième année consécutive, 758 000 naissances, c'est 12 000 de moins qu'en 2017. Alors, autre évolution, en cas de séparation, les cas de résidence parfaitement alternée pour les enfants ont doublé depuis 2010, donc c'est vraiment de plus en plus une semaine chez maman, une semaine chez papa. Et puis, dernier enseignement, les femmes sont désormais les plus diplômées dans la majorité des couples. Oui, et elles sont plus qualifiées, mais pas plus payées.
Ah oui, et revient ça le scandale. Voilà. Merci beaucoup Jérôme, c'est une double page à lire dans Libération. Merci à tous les trois. Le Pressing referme ses portes et rendez-vous demain, même endroit, même heure, sur Europe 1 évidemment.
Europe 1, il est 5h27, Eva Rock.
Debout les copains se poursuit avec la météo et le journal d'Hélène Zélani. Agréable réveil à l'écoute d'Europe 1.
Il est 5h28 sur Europe 1, Eva Rock.
Laurent Cabral, à quoi ressemble le ciel en ce mercredi 27 février ?
Eh bien, il est tout bleu, il est tout beau, il est magnifique. C'est même la journée la plus agréable, la plus belle journée de la semaine et de l'épisode de printanier que nous venons de vivre. Cet épisode printanier est à son apogée, les températures également. 14 degrés à Dunkerque cet après-midi, 16 à Nice, 18 à Marseille, 19 à Paris, à Lyon. Paris, il n'y en avait que 17 hier, vous voyez, ça monte bien. 20 degrés à Rennes et Nantes et Nancy, 21 à Nevers, 22 à Bourges, plus chaud, hein, Biarritz, Toulouse, 23-24, 25 à Bordeaux et 27 degrés dans les Landes. Franchement, ce sera très agréable et nous l'avons dit, redit, il faut en profiter.
Exactement, parce que demain, ça se couvre.
Ça, demain, il pleut même.
Oui, on l'aura pas dit.
Il pleut et il va pleuvoir maintenant assez fréquemment pendant au moins une dizaine de jours.
Bon, on en reparle tout à l'heure. Merci beaucoup, Laurent, quand même. Merci.
Europe 1, 5h, 7h. Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui espère vous convaincre tous les matins qu'allier info et sourire, c'est possible. Il y a Hélène Zélani qui souffle à côté de moi parce que c'est sa semaine de vacances la semaine prochaine. À suivre, les conseils culturels et technologiques de la bande de Mercredi les bons tuyaux avec au menu deux films, des applis et sites pour les agriculteurs. Et puis la nouvelle campagne en images de l'association WWF. Auparavant, avec le docteur Ishoun, tenterons de comprendre les interactions entre aliments et médicaments. Et oui, jus de pamplemousse et brocoli, c'est pas automatique.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveillé, il est 5h30. 5h-7h, Eva Rock sur
Les infos de ce mercredi 27 février 2019. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Le camouflet pour le gouvernement qui n'a pas été averti de la prise de participation de l'État néerlandais au capital d'Air France KLM. Une opération surprise pour acheter un peu plus de 12% des actions. Lorsqu'on participe à des manifestations violentes de gilets jaunes, on est complice du pire. Déclaration choc d'Emmanuel Macron hier devant des élus du Grand Est. Vous l'entendrez. Et puis le foot, le PSG qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, quadruple tenant du titre. Les Parisiens ont battu Dijon 3-0 hier soir. On va y revenir, bien sûr, dans le journal des sports.
Europe 1.
Les manifestations de gilets jaunes, ça suffit. Voilà donc en substance le message lancé hier par Emmanuel Macron qui recevait des élus du Grand Est à l'Élysée. Pas moins de 6 heures de discussion et au détour d'une question sur l'après-gilets jaunes, une réponse cinglante.
C'est un miracle qu'après autant de samedis, avec cette violence à certains moments et dans certains endroits, il n'y ait eu aucun mort à déplorer de la part, justement, des forces de l'ordre. Et il faut maintenant dire que lorsque on va, le samedi, dans des manifestations violentes, on est complice du pire. C'est tout. Mais soyez partout où vous êtes aussi clair que cela. Et moi, je déplore qu'il n'y ait pas toujours eu cette clarté. Je crois qu'aujourd'hui, la place doit être au débat, la place est à la réponse démocratique. Partout où elle est installée, elle sera ensuite dans les urnes pour les échéances à venir, pour celles et ceux qui veulent s'organiser. Mais on ne peut pas être dans une démocratie de l'émeute.
Emmanuel Macron, micro-Europe 1 de Virginie Rivard, réaction outrée du député insoumis Éric Coquerel qui se demande si on est toujours en démocratie quand les droits des opposants sont ainsi menacés. Tous les sondages récemment publiés montrent qu'une majorité de Français souhaitent que le mouvement s'arrête.
Arrivée surprise de l'État néerlandais au sein du capital d'Air France.
Oui, on l'a appris hier soir, le gouvernement de La Haye a acheté 680 millions d'euros d'actions Air France KLM, soit une participation de 12,68% dans la compagnie. L'objectif étant d'atteindre une position équivalente à celle de l'État français, qui est d'un peu plus de 14%. Dans les échos, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, regrette que ni le conseil d'administration du groupe, ni le gouvernement n'aient été informés de cette opération. L'avenir d'Ascoval, à nouveau nouveau devant la justice. Le tribunal de Strasbourg doit valider ce matin l'annulation de la reprise de l'aciérie de Saint-Saulve dans le Nord, puisque l'État a officiellement écarté Altifort qui n'avait pas les fonds suffisants. Le tribunal pourrait mettre en place un calendrier pour permettre aux nouveaux candidats à la reprise de se manifester. Et puis il se dit heureux et soulagé et remercie son avocate de s'être battue jusqu'au bout. Alexandre Benalla a été remis en liberté sous contrôle judiciaire hier soir, ainsi que son ami Vincent Kraz. Ils étaient en prison depuis une semaine pour ne pas avoir respecté leur contrôle judiciaire.
Europe 1, il est 5h33.
Le salon de l'agriculture bat son plein à Paris. Hein, l'occasion de s'intéresser à la transmission des exploitations.
Et oui, aujourd'hui, 45% des agriculteurs ont plus de 50 ans, ce qui veut dire que dans 10 ans, toute une génération commencera à partir à la retraite. Et les salaires étant bien peu attractifs, pas évident d'assurer une continuité. Écoutez ce reportage dans les allées du salon, signé Anne-Laure Jumet.
Transmettre son exploitation à ses enfants, à 53 ans, Philippe Pelletier, éleveur de Charolaise, y pense déjà, mais il le dit, c'est extrêmement compliqué.
Aujourd'hui, une ferme valable, c'est 1 million d'euros. Donc c'est investir 1 million d'euros pour peut-être pas sûr de sortir un SMIC les premières années. En élevage, nous, en Bourgogne, Saône-et-Loire plus particulièrement, et dans les 5-10 ans, il va y avoir un nombre incalculable de fermes qui n'aura personne en face.
Et le problème se pose déjà, l'équivalent de la superficie d'un département disparaît tous les 10 ans, selon l'association Terre de Liens, qui propose une solution. Franck Bernard préside de la fondation de cette initiative citoyenne.
On achète des terres avec des financements citoyens qui permettent de les retirer de la spéculation. On essaye d'installer des jeunes agriculteurs sur des petites surfaces. Donc on passe un bail rural environnemental avec nos agriculteurs qui les, entre guillemets, les oblige à faire du bio.
Un coup de pouce dont a bénéficié Édouard Bertrand, qui a quitté un métier dans le bâtiment pour devenir paysan boulanger.
Tous les ans, on a un coût qui est à peu près de 2700 euros. Donc on ne croule pas sous les emprunts. On est à côté de Chambéry. C'est une ferme périurbaine qui vaut très cher. C'est quasiment impossible pour quelqu'un d'acheter une ferme comme celle-ci.
Et grâce à Terre de Liens, plus de 180 fermes ont pu être maintenues.
Anne-Laure Jumet. Décathlon renonce finalement à commercialiser son hijab de sport. La polémique avait enflé toute la journée à l'annonce de l'arrivée en France de ce foulard déjà commercialisé au Maroc. Donald Trump retrouve ce soir celui qu'il appelle son ami, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Deuxième sommet entre les deux hommes à Hanoï au Vietnam. Sur Twitter, le président américain évoque un avenir génial pour le pays s'il s'engage sur la voie de la dénucléarisation.
Et puis des mesures anti-pollution pour lutter contre les particules fines aujourd'hui.
Oui, à Paris et en proche banlieue, mais aussi à Lille et dans sa métropole, les véhicules les plus polluants seront interdits de circulation. En clair, ceux qui ont la pastille 0 à 3 auront le droit de rouler, mais pas les autres. Et puis, la pollution des mers menace de plus en plus l'écosystème. Des chercheurs ont découvert pour la première fois des microplastiques dans les entrailles de mini-crustacés vivant à près de 11 km de profondeur. Plus de 300 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année et une bonne partie se retrouve dans les océans.
Merci, c'était le journal d'Hélène Zélani. Hélène, vous voyez le jeune homme qui s'installe à vos côtés ?
Mais je le vois très bien.
Voilà, et bien ce garçon est en vacances dans très peu de temps. Encore une désertion dans l'équipe de Debout les copains. Je ne sais pas qui sera encore présent dans le studio à la fin de la semaine. On verra bien. Allez au boulot, Jérôme Lacroix, c'est l'heure de votre journal des sports. Et à la une, le tube du moment.
Le tube tennis du moment, côté français, Gaël Monfils, 32 ans, auteur d'un début d'année prolifique, récent vainqueur d'un tournoi, c'était à Rotterdam. Le Parisien a marqué les esprits hier au premier tour du tournoi de Dubaï. Il a battu le Croate Cilic, 10e mondial, en lui collant, mais notamment un 6-0 enfin, dans le troisième set.
Qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire?
Quand vous passez 6-0 oui, vrai, au 10e mondial, puis Cilic, c'est un costaud. Monfils, il est fort d'un nouvel entraîneur et puis... d'une nouvelle fiancée, bah oui, il rayonne, hein, Corinne Boulou, comme d'ailleurs quelques autres tricolores.
Et bien après l'épopée de Lucas Pouille en Australie, le retour victorieux de Joe Wilfried Tsonga à Marseille, les finalistes Pierre Hugerbert et Hugo Humbert, il en est un qui dans son coin réalise de belles perfs ces derniers temps. C'est Gaël Monfils, demi-finaliste à Sofia au début du mois, puis vainqueur à Rotterdam, le 8e titre de sa carrière. Hier, il s'offre Marine Cilic, 42e à la fin de l'été dernier, marqué par un abandon à l'US Open, des blessures au genou. Gaël Monfils a déjà regagné une vingtaine de places et n'est plus très loin de redevenir le numéro 1 français. À Dubaï, il avait rejoint l'élu de son cœur, l'Ukrainienne Elina Svitolina, 7e mondiale, en lice dans le tableau féminin une semaine plus tôt. Il faut croire que l'amour donne des ailes.
Corinne Boulou et Gaël Monfils affrontent aujourd'hui le Chypriote Bagdatis, 128e mondial au deuxième tour dans ce tournoi de Dubaï. Élimination en revanche hier de Benoît Paire et du jeune Corentin Moutet.
Le foot est là, tranquille soirée pour le PSG.
Oui, victoire 3-0 au Parc des Princes face aux Dijonais. Qualification pour les demi-finales de la Coupe de France. 2 buts de l'Argentin Di Maria, 1 du Belge Meunier. Aujourd'hui, deux autres quarts de finale. 18h30, Rennes reçoit Orléans qui joue en Ligue 2. Et puis à 21h, Lyon face à Caen. Les Lyonnais toujours privés de leur capitaine champion du monde, Nabil Fekir. Un huitième entraîneur de Ligue 1 limogé cette saison. Le Brésilien Ricardo n'est plus manager général de Bordeaux. Remercié 6 mois après son arrivée pour mauvais résultats. Les Girondins sont 13e de Ligue 1.
Et qui est la personnalité du jour?
J'ai choisi Grégory Baugé. C'est l'une des stars françaises du cyclisme sur piste. Sacré palmarès, quadruple champion du monde en vitesse individuelle, quadruple médaillé olympique. Et c'est un jour particulier pour le Guadeloupéen aujourd'hui. Il signe son retour en championnat du monde. Les mondiaux démarrent en Pologne. Et 3 ans que Grégory Baugé n'y participe plus. Alors les Français peinent à s'illustrer dans ces rendez-vous depuis 2015. Chance de médaille dès aujourd'hui avec la vitesse par équipe. Grégory Baugé espère un podium, d'autant qu'à 34 ans, il est un peu le capitaine officieux des sélections françaises.
Les encourager, que ce soit mon équipe ou même les coureurs d'endurance, les filles aussi, essayer de dissiper leur stress, parce qu'on sait qu'un championnat du monde, et encore plus un an avant les Jeux, c'est quelque chose qui peut rajouter plus de pression. Donc voilà, échanger avec eux pour les mettre dans les meilleures dispositions pour pouvoir être pas le plus détendu possible, mais en tout cas le moins stressé.
Et Grégory Baugé qui d'ailleurs concourra seulement aujourd'hui en Pologne, il ne s'aligne sur aucune épreuve individuelle afin de se concentrer sur donc cette épreuve collective de vitesse par équipe.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. N'oubliez pas de revenir, Jérôme, on compte sur vous vers 6h10, on est d'accord ?
Je serai là.
À tout de suite.
Europe 1.
Il est 5h38, Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui chaque matin vous informe, vous offre sourire et des conseils. Et le docteur Ichou est bien placé pour nous en donner. Et ça se passe sur Europe 1.
Europe 1.
Europe 1, il est 5h40, Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, il est l'heure de retrouver Laurent Cabrol. Laurent, on aimerait que ça ne s'arrête jamais. Mais bon, je sais qu'il faut de l'eau, mais bon, voilà.
Comment ça s'appelle, Joséphine?
C'est qui, Joséphine?
Joséphine.
Mais quoi?
Mimimati.
Joséphine Ange Gardien. Ah oui, d'accord.
Mimimati.
Ah oui, elle claque des doigts.
Un petit coup de nez, puis voilà, c'est bon.
Non, alors le nez, c'est Samantha. Elle m'a sorti bien. Voilà. C'est les doigts qui claquent pour Joséphine.
Il fait entre moins 1 et plus 12 degrés. Alors, nous parlons, c'est-à-dire que nous avons quand même des matinées très froides. Il ne faut pas se leurrer, les matinées sont froides.
C'est frisqué.
Du 0 à Nancy, du 3 à Rennes, 4 en banlieue parisienne, 6 à Lille, 8 à Paris et 12 à Millau. Et dans la journée, il va faire très très bon, entre 14 et 27 degrés. Curiosité du jour, parce qu'on n'arrête pas de dire oui, les records, soin.
Oui.
Eh bien, il fera 27 degrés à Bordeaux aujourd'hui. Eh bien, en 1990, il faisait 25 degrés à Bordeaux. Et il fera 27 degrés dans les Landes. Eh bien, en 1990, il faisait 27 degrés dans les Landes.
Donc, voilà. Le prochain qui dit que c'est un record, on vous l'envoie. J'allais dire, on le tape.
Il va passer à 7 quarts d'heure.
Merci Laurent, à tout à l'heure. Anissa, comment ça se passe sur Twitter avec les auditeurs?
Bah, c'est bien, on vous demande sur Twitter quel est votre petit surnom quand vous êtes avec votre moitié. Il y a plein de petits surnoms très mignons. Olivier nous dit beaucoup de surnoms en ou, Titou, Ninou. Quentin nous dit, moi j'aime bien ma petite choute parce que je trouve que ça fonctionne pour souligner sa beauté. Oh, tu es choute. Et sa fragilité, petite choute. Voilà, bonne émission. Parce qu'en plus, on a les explications. Et Hélène Zélani, elle nous donne des surnoms parce qu'on passe quand même une moitié de la nuit tous ensemble. Donc oui. On est un peu intime. Oui. Elle vous appelle Vava et moi Nini.
Oh, voilà. C'est mignon.
C'est mignon.
Ouais, c'est un diminutif d'Eva, c'est un peu compliqué. Merci beaucoup, Anissa.
Europe 1. 5h, 7h. Eva Rock.
C'est l'heure de notre point santé et ce matin, il est question des interactions entre les aliments et les médicaments. Bonjour docteur Ichou.
Bonjour Eva.
Vous voulez nous alerter sur ces interactions? En fait, quels sont les éléments importants à connaître en la matière?
Ben, ils sont importants à connaître quand on est en situation, car donner une information quand elle n'est pas en situation n'a aucun intérêt. Effectivement, on nous dit que le pamplemousse peut modifier l'efficacité des traitements anti-cholestérol, les bananes et les oranges ont des interactions avec certains médicaments pour la tension, le rapport en potassium peut, dans certaines situations pathologiques, entraîner des accidents, les brocolis, les choux, les épinards sont susceptibles de modifier l'effet des anticoagulants.
Mais c'est important quand même de savoir ces éléments.
Bah, si vous prenez ces médicaments et que vous en avez discuté à votre médecin, avec votre pharmacien, oui. Mais sinon, qu'est-ce que retiennent les gens?
Le
lundi,
négatif,
on vous dit qu'il faut manger des fruits et des légumes. Le mardi, que certains fruits sont dangereux. Le mercredi, on va vous donner encore une autre allégation. Et finalement, on est complètement perdu. Il n'y a pas de recommandation qu'on puisse vraiment intégrer pour avoir un comportement. Et on a l'impression qu'il nous faudrait une tablette avec un algorithme pour pouvoir gérer notre alimentation. Non, la seule chose à retenir, c'est ne prenez pas de médicaments si ça n'est pas indispensable. Et quand cela est nécessaire, allez voir votre médecin, votre pharmacien, et voyez précisément, en fonction des médicaments que vous prenez, ce que vous devez faire et ne pas faire.
Merci docteur Ichou, c'est encore du bon sens, mais c'est important de le rappeler. On vous retrouve demain matin, même heure, même endroit, pour un nouveau Point Santé.
Europe 1. Il est 5h44, Eva Rock.
Et vous écoutez Debout les copains, deux heures d'informations et de bons plans pour se cultiver et pour briller dans les dîners aussi. La bande de mercredi Les Bons Tuyaux débarque avec des idées de films et d'applications. Ce matin, c'est Mathieu Charrier, Clément Le Saffre et Aurélien Fleureau qui vous apportent ce supplément de culture sur un plateau. D'ailleurs, petit conseil culture pour ceux qui aiment la musique, ne manquez pas le Festival des Vieilles Charrues du 18 au 21 juillet et dont Europe 1 est partenaire. Vous pourrez entendre notamment Chris and the Queen, extrait de son dernier album, La Marcheuse.
Je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver les points qui redessinent. Je vais chercher le et hontément les coups portés sur moi, la violence facile. Je vais marcher tout le temps et je m'en vais forcer les regards agressifs.
De Christine and the Queen sur Europe 1. Il est 5h46. L'essentiel de l'actualité de ce 27 février avec vous, Eva Rock. Alexandre Benalla et Vincent Crase sont sortis hier soir de prison. Décision de la Cour d'appel de Paris. Ils sont restés incarcérés une semaine pour non-respect de leur contrôle judiciaire. Ils s'étaient rencontrés fin juillet alors qu'ils étaient interdits de tout contact dans le cadre de l'enquête sur les violences du 1er mai dernier. Georges Pell n'est plus secrétaire à l'économie du Vatican, annonce hier soir du Saint-Siège. Le cardinal australien, ex numéro 3 de la hiérarchie catholique, vient d'être reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineurs et on vient d'apprendre son placement en détention. Il encourt 50 ans de prison. Sa peine devrait être prononcée dans les deux semaines. Et puis les footballeurs du PSG qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France. Victoire 3-0 hier soir contre Dijon.
Europe 1.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 27 février 2019. Auteuil, hier, Vincennes, aujourd'hui, et toujours des chevaux sur lesquels vous pouvez parier. Bonjour José Covès.
Bonjour Belle Eva. Eh oui, à Vincennes, le trot, c'est trop. Dans cette première course ouverte, 17 trotteurs sont tous au départ des 2700 mètres. Mes 5 favoris, numéro 6, Angle of Attack, jugé sur sa victoire du 6 février, c'est le cheval à battre. Il faudra qu'il vienne à bout de la résistance d'Angèle d'Or, le 10, au cœur toujours vaillant. Il faut savoir aussi que Classe Action, le 14, vient de surclasser l'opposition. Le maestro Jean-Michel Bazir va driver le 17 Colorado Blue en chef d'orchestre. Quant au numéro 1, Well Done la marque, c'est mon abonnement, je lui garde ma confiance. Trois autres possibilités, le 7 Crusoe d'Anama, une véritable pendule. Le 16 Nancy America, affûté pour cet objectif. Et le 2, Ticket to Ride, un Italien très estimé. Voici donc mon ticket pour la première course vers 13h45. D'abord le 6, le 10, le 14, le 17, hélas, et ensuite le 7,
le 16 et le 2.
José, j'ai bien compris que c'était une course ouverte, mais vous avez un petit coup de cœur ou pas ?
Un vrai coup de cœur, Eva. Oui, sans hésiter, le numéro 10, Angèle d'Or, âgé de 9 ans, bientôt à la retraite. Il n'a jamais été aussi fort. Il va de nouveau tenir tête aux favoris en mettant son cœur sur la piste. Eva, sa victoire serait une belle citation à l'ordre du mérite.
Ben merci beaucoup, José Gauvès. Et puis, on se donne rendez-vous demain matin.
Il est 5h48.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.
Et vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains qui se poursuit avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici mercredi les bons tuyaux. Aurélien Fleureau pour les écrans, Clément Le Saffre pour les nouvelles technologies et Mathieu Charrier parce que le mercredi c'est ciné, mais les autres jours aussi, hein, n'est-ce pas Mathieu ?
J'espère bien.
Et le premier film que vous nous conseillez ce matin, c'est Jusqu'ici tout va bien, signé Mohamed Hamidi.
Oui, réalisateur, vous vous en rappelez peut-être de La Vache, oui, avec Jamel Debbouze il y a quelques années. Voilà, Mohamed Hamidi qui a de nouveau d'ailleurs reçu le prix du public lors du dernier festival de comédie de l'Alpe d'Huez pour ce Jusqu'ici tout va bien. Alors l'histoire elle est assez simple, hein. Gilles Lelouch est patron d'une agence de communication, type belle voiture, costume noir, chemise blanche, vous voyez le genre. L'agence s'appelle Happy Few, ça ne s'invente pas. Lorsqu'un jour débarquent des contrôleurs des impôts, figurez-vous que Lelouch fait croire depuis des années qu'il est installé en zone franche, vous savez, c'est-à-dire en banlieue, pour ne pas payer de charges. Eh bien, il n'a pas le choix. S'il ne veut pas se faire redresser, il doit vraiment aller s'installer en banlieue et puis recruter des locaux, notamment Malik Bentala, maître chien qui a peur des chiens, c'est pas très pratique. À partir de ce scénario, Mohamed Hamidi déroule une partition déjà vue. Hein, ces urbains qui débarquent en banlieue, plein de préjugés, qui vont apprendre à connaître, à apprécier les banlieusards. Mais c'est bien fait, c'est positif, c'est drôle. En période de vacances scolaires, pourquoi s'en priver ? Vous n'allez pas voir le film de l'année, mais vous passerez un bon moment. Jusqu'ici, tout va bien, signé Mohamed Hamidi.
C'est du feel good, comme on dit.
Feel good movie.
Ouais, c'est bien. Et puis, deuxième film qu'il ne faut pas manquer cette semaine, c'est Les Éternels.
Oui, alors là, c'est signé Jazzy Henke, qu'on avait découvert au dernier festival de Cannes, où il était d'ailleurs reparti étrangement bredouille. Alors, c'est une grande fresque amoureuse sur fond de thriller et de résilience. Le film commence au début des années 2000. On est en Chine, la jeune Kiao tombe amoureuse de Bin, c'est le chef haillon d'un groupe de bandits locaux. Un soir, il est attaqué par une bande rivale, frappé en plein milieu de la rue. Ça aurait pu très mal finir, mais Bin intervient et tire plusieurs coups de feu pour faire fuir les assaillants. Elle est emprisonnée et comme elle refuse de balancer qui lui a fourni l'arme, son homme évidemment, elle écope de 5 ans de prison. 5 ans plus tard, donc, elle ressort, elle se met en tête de retrouver Bin, qui n'a même pas d'ailleurs daigné venir la voir au parloir, sauf qu'il a refait sa vie. Et à partir de là, ce film, c'est une histoire passionnelle qui, à mon sens, vaut surtout par le cinéma qui s'en dégage entre les magnifiques et gigantesques décors naturels de la Chine, les huis clos aussi, dans des pièces miteuses tenues par la pègre, et puis une lumière, une photo si identifiable dans le cinéma chinois, tout en dénonçant l'abandon d'une partie de la population. D'ailleurs, Jia Zhenke, le réalisateur, il a été élu député en Chine il y a quelques mois et il se bat à travers la politique, à travers son cinéma aussi, pour faire évoluer son pays. Les Éternels de Jia Zhenke, vraiment, c'est une belle porte d'entrée vers le cinéma asiatique, si c'est pas un cinéma qu'a priori vous connaissez ou appréciez.
Ah bah ça me donne très envie d'aller le voir. Merci beaucoup.
Retournons-y.
Merci. À vos côtés, notre nouveau monsieur high-tech, Clément Le Saffre. Clément, ce matin, vous nous parlez de deux mondes qui cohabitent de plus en plus, à savoir l'agriculture et le numérique.
Tout à fait. Hein. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils sont comme tout le monde, comme vous et moi autour de cette table. Oui. Ils ont le nez rivé sur leur téléphone et leur ordinateur. Deux tiers d'entre eux se disent même prêts à avoir recours à des applications ou à des sites pour les aider au quotidien dans la gestion de leur exploitation.
Mais en quoi le numérique, en fait, peut les aider dans leur travail ?
Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les fermes sont devenues de véritables repères technologiques. Il y a des capteurs partout dans les champs, sur les tracteurs et même dans des drones qui les survolent. Les agriculteurs peuvent donc collecter énormément de données sur leur exploitation. Et pour les accompagner, il y a des applications qui classent toutes ces données, qui les traduisent en solutions à appliquer directement sur le terrain. Prenez par exemple l'application Geofolia. L'agriculteur rentre tout ce qu'il fait dedans, semences, désherbages, engrais, etc. Et la pluie lui propose un suivi avec des alertes, par exemple, quand il dépasse les seuils de produits phytosanitaires.
Internet, c'est aussi un moyen pour les agriculteurs de surmonter des difficultés financières, par exemple.
Alors, ça peut les aider absolument. De plus en plus de start-up essayent de venir en aide justement à ces agriculteurs. L'une des plus connues, c'est Agriconomy. C'est une sorte d'Amazon de l'agriculture. C'est une boutique en ligne qui permet d'acheter des semences, des outils, des pièces détachées, vraiment tout pour la ferme, mais à des prix beaucoup plus bas que ceux des fournisseurs classiques. Une autre solution numérique très prisée, c'est le crowdfunding dédié aux projets agricoles. On peut citer l'exemple de Mimosa, c'est une plateforme de financement participatif française. Les agriculteurs y déposent leurs projets, font appel à la générosité des gens.
Et alors c'est quoi les genres de projets qu'on peut trouver sur Mimosa ?
Eh bien en ce moment, vous pouvez par exemple aider Jérémy qui veut convertir son vignoble de Juliennas au bio, ou bien donner un petit coup de pouce à Marion qui rêve de devenir bergère en Haute-Loire. Elle a besoin pour ça d'une soixantaine de chèvres et de brebis. Alors Eva, Aurélien, Mathieu, Anissa, si vous avez quelques euros de côté, vous savez quoi en faire maintenant.
Ouais,
idée, très belle idée.
Chef, pour quelqu'un d'autre ou pour soi, si vous avez envie de faire une reconversion professionnelle.
Dans notre appartement parisien, ça va bien.
Non, si vous voulez.
Sur la terrasse d'Europe 1, là, au quatrième.
Si vous voulez changer de vie, par exemple, Mathieu Charrier, vous voulez pas changer de vie?
Maintenant, tous se cotiser pour
Je vous verrai plus après.
Ah oui, non. C'est vrai. Oh.
C'est mignon.
Bah, quel comédien celui-là.
Allons aider les chèvres tous ensemble. Hein, voilà. Merci beaucoup Clément. Aurélien, vous avez repéré une application qui sera bientôt mise à l'honneur dans une série télé.
Oui, écran de smartphone et de télévision vont faire la paire pour la bonne cause. L'application s'appelle We Act For Good. Elle a été créée par WWF, l'ONG qui œuvre pour la protection de l'environnement. Et la série, je suis sûr que vous allez trouver si je vous dis Marseille.
Oh, belle la vie.
Oh, voilà, c'était un quiz très très compliqué. Hein.
Vous avez vu la différence? C'est Anissa qui dit oh, plus belle la vie et Mathieu Charrier qui dit oh non, pitié.
Parce qu'il va avoir la musique dans la tête toute la journée, il aime tellement, c'est pour ça. Donc, plus belle la vie, épisode 3753, diffusion prévue le 13 mars prochain. Et dans cet épisode, comme la série le fait régulièrement, elle va aborder le thème de l'écologie. Mais là, ça va prendre la forme de défis à relever en réalisant des gestes simples. Des gestes du quotidien. Le personnage d'Emma va utiliser l'application We Act For Good, notamment pour organiser une fête zéro déchet à l'occasion d'un anniversaire. Et il y aura comme ça régulièrement des recours à cette application dans la série de France 3, qui est tout de même regardée, je le rappelle, chaque jour en moyenne par 3,5 millions de téléspectateurs et donc par Mathieu Charrier.
Et cette appli, elle permet de faire quoi exactement? Comment elle fonctionne?
Alors, je l'ai téléchargée, comme ça je vais m'y mettre moi aussi. C'est construit de manière ludique. On peut choisir des défis à relever. Le premier, par exemple, s'appelle les courses des braves. Donc quand on fait ses courses, si on veut réussir un petit déj de héros, eh bien on nous indique qu'il faut choisir des céréales avec le logo FSC, ce qui va garantir deux choses. D'abord qu'on va lutter contre le gaspillage des emballages et ensuite qu'on ne va pas exploiter de ressources inutilement. Donc voilà, on cumule des points, on prend de nouvelles habitudes, on lit des conseils dans tous les domaines, gestion des déchets, de nos déplacements, tout ça en faisant participer les enfants. C'est ça aussi l'intérêt, pour les sensibiliser dès le plus jeune âge.
C'est pas mal comme placement de produits, en fait. Là, c'est associatif, donc il n'y a pas, pour la bonne cause, utiliser une fiction aussi puissante pour parler d'environnement. Ouais. Très bien, merci beaucoup Aurélien Fleureau, merci l'équipe des bons tuyaux. Mathieu Charrier, ça va? Je vous sens un peu... Non. Tout va bien.
Je vous écoute, je vous admire.
Non, c'est pas ça. C'est vous êtes triste parce que Mathieu n'est pas là. Mathieu Noël n'est pas là.
Il vous manque,
votre petit matounet.
On est tranquille.
Alors rendez-vous demain pour jeudi les bons tuyaux avec d'autres conseils et bons plans.
Europe 1. Il est 5h55. Eva Roch.
À suivre dans Debout les copains, la météo signée Laurent Cabrol et le journal de 6h de François Geffrier.
Europe 1, il est 5h57, Eva Roch.
Et avec cette petite musique, on sait que c'est l'heure de la météo avec vous, Laurent Cabrol. Et de toute évidence, il va falloir profiter de cette journée.
Bien sûr, on en profite largement, chers amis. Vous pouvez envisager de faire toutes les entreprises extérieures, tout ce que vous avez envie de faire dehors. Faites-le, parce qu'ensuite ça va changer. Bon, on l'a dit et redit. Pourquoi se réjouit-on de l'arrivée de la pluie? C'est pas par masochisme, bien sûr. C'est tout simplement parce que avant que la nature ne reparte, il faut que les nappes phréatiques se remplissent. Donc, si on attend que la nature décolle, eh bien, quand la nature aura bien démarré, elle va absorber une grande partie de la pluie qui tombe. Résultat, elles n'iront pas, ces pluies, dans les nappes phréatiques. C'est la raison pour laquelle on est heureux quand même, de voir la pluie arriver pendant une bonne dizaine de jours. Ça va faire du bien. Ensuite, on espère que le soleil va revenir. Il va revenir probablement, mais quand même, là, pour l'instant, on a l'impression que l'épisode qui se prépare, cet épisode de pluie, devrait durer quelques temps. Alors, en ce qui concerne les températures maximales, elles sont en hausse par rapport à hier. Nous gagnons 1 à 2 degrés.
Encore,
entre 14 et 20 degrés. Il en fera 19 à Paris et 19 à Lyon et 21 même à Nevers, 22 à Bourges, 23 à Biarritz, 24 à Toulouse et puis 27 degrés dans les Landes.
Merci beaucoup, Laurent. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo. Anissa, du côté Twitter, comment ça se passe?
Eh ben, on vous demande quel est le petit surnom que vous donnez à votre moitié à la maison, des petits surnoms mignons et doux. Stéphane nous dit: bonjour à toute l'équipe, vous pouvez m'appeler Loupsy en toute intimité, ne parlez pas trop fort, ma moitié dort à côté.
Oh bah c'est pas sympa.
Donc là, si elle nous écoute, bah c'est grillé, Stéphane.
On l'embrasse aussi. Hein.
Voilà. Et puis Carole nous dit: époque lointaine et révolue du chéri chéri, sinon quand j'étais petite, on m'appelait Dado. Aujourd'hui, je suis devenue mamie Dado.
Ah, c'est mignon.
Voilà,
aussi.
Mais avant, c'était chéri chéri. Non, mais c'est mignon. Continuez à nous dire hashtag Europe 1, quels sont vos petits surnoms que vous vous donnez en couple, même quand vous vous énervez.
Exactement. Merci, Anissa.